compte que bon bah on s'est mis dans une sous la dépendance complète du grand capital et de la finance internationale sans aucun moyen de changer quoi que ce soit. En fin de compte, on est en train d'aligner les conditions du travail en France sur les conditions du travail en Inde et en Chine. À un moment donné, c'était il y a quelques années une boutade, on disait il va falloir attendre que ces gens-là arrivent à notre niveau pour qu'on fasse progresser les conditions sociales. Enfin, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On attend tranquillement, enfin si on peut dire tranquillement, au prix d'une misère effroyable, que le Bangladesh soit au niveau de rémunération de la classe ouvrière en France. Enfin, c'est consternant, quoi. Alors évidemment, dans cette situation-là, le Front National en tire le plus grand profit. Il est sûr qu'il se présente comme un parti qui veut changer radicalement les choses. Il dénonce la situation économique et sociale. Il n'a que l'embarras du choix, hein, dans les scandales économiques, financiers, sociaux en France, que l'on doute de sa possibilité de changer quoi que ce soit dans ce domaine-là, ou même de sa volonté de le faire, c'est une chose, mais n'en reste pas moins que c'est un puissant argument pour que ces gens-là gagnent des électeurs, gagnent des voix et deviennent de plus en plus incontournables pour la droite. Alors ce qui est grave, évidemment, c'est que derrière ce discours, je dirais, économique et social de circonstance, il y a une vision de l'humanité, il y a une vision de la société, etc., qui est derrière, et qui est toujours celle de l'extrême droite française depuis plus d'un siècle au moins. Là, c'est grave, parce qu'à l'occasion, je dirais à la faveur de cette crise économique et sociale dans laquelle nous ont plongé la majorité des partis politiques en France, on voit se pointer à nouveau, encore, l'extrême droite en France. Et ça, c'est insupportable.
L'Europe, oui, c'est le oui ou le non.
Oui,
car... Mais on ne peut pas dire oui.
Non, surtout pas, il y a...
Oui. Non, non, oui, non.
Oui.
Oui,
oui.
Il faut voter non.
Il ne faut pas voter
oui.
Oui, évidemment. Évidemment.
Oui.
Oui.
Ah. Oui.
Non.
Oui.
Non, non. Ah. Voter non, ça veut dire quoi? Non.
Oui.
Non.
Et si je dis oui, tout le monde avait dit non.
Oui.
Oui ou non?
Du oui, du non.
Non, non.
C'est pas parce que le non montait dans les sondages.
Si.
C'est pas le paradis si vous votez oui.
Non, non.
Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps.
On va leur dire, ah ben non, on est...
Non, excusez-moi.
Non. Non. Non,
non.
Non. Je respecte les gens qui sont contre l'Europe. Et je vote non à la Constitution. La voix off.
Et une polémique.
Est-ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le feuilleton de la France qui pense et qui croit?
Des cons.
Maintenant, vous savez tout et vous pouvez juger vous-même.
Quels sont les deux moments de l'histoire de France où l'extrême droite s'est développée? La fin du 19e siècle, les années 1880-1890, nous sommes dans des années de dépression économique et de crise. Et les années 30, avec la crise mondiale. Mais c'est pas un hasard. C'est bien sûr pas un hasard du tout. Il faut qu'il y ait en quelque sorte une crise profonde de la société bourgeoise, libérale, appelons-la comme on veut, capitaliste, des sociétés de marché, etc., pour que ces gens-là prospèrent. Et alors, ils se proposent dès le départ comme étant une solution ni capitalisme, ni socialisme. C'est toujours, toujours, c'est ça qui caractérise, à mon avis, la droite révolutionnaire en France. Ces gens se présentent comme étant une alternative au choix socialisme ou capitalisme. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils prétendent n'être ni le socialisme abhorré, car ces gens sont foncièrement, violemment anti-marxistes, anti-communistes, etc., anti-socialistes, et en même temps, ils se prétendent anti-libéraux. Et ils sont anti-libéraux à bien des égards, ce sont des anti-libéraux. Ils avancent d'autres solutions qu'ils prétendent tout à fait originales. Et ils sont très séduisants. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs, dans ces grands moments-là, sont attirés par les solutions qu'ils préconisent. Des gens qui sont dégoûtés du système libéral, de la démocratie bourgeoise traditionnelle et de ses résultats, et des gens qui ne veulent pas pour autant adhérer au projet socialiste, au projet communiste, etc., ils ont une troisième voie. Cette troisième voie, c'est ces gens-là. Et ils sont donc extrêmement attractifs. Et c'est pour ça qu'il faut les combattre, sur le fond.
Toujours au cœur de la rediffusion de cette spéciale Programme économique du Front National, émission qu'on vous a proposée pour la première fois en 2011.
Michel, je me retourne vers toi.
Sur 9 conneries que peuvent dire les gens du Front National, il y a forcément toujours un constat qui est ancré dans du réel et donc qui sonne vrai. Moi, dans le discours de Marine Le Pen, il y a un truc que je peux trouver extrêmement séduisant, par exemple, c'est la notion de protectionnisme. Pourquoi est-ce qu'on se ferait pourrir le marché français de produits fabriqués par des esclaves qui n'ont pas les droits des travailleurs français? Parce que le travailleur français, il coûte trop cher parce qu'on lui paye de la sécu, on lui paye des retraites, on lui paye sa santé, etc. Alors que l'esclave, on n'a pas à lui payer tout ça. Donc il fabrique des produits de consommation achetés moins cher que ceux manufacturés par le travailleur français. Alors, Marine Le Pen arrive sur son cheval de Zorro et nous dit rétablissons des barrières protectionnistes.
Alors, l'idée d'un retour au protectionnisme, d'un protectionnisme régionalisé, qui consisterait à dire, grosso modo, on ne va quand même pas faire jouer ensemble des gens qui jouent au foot en division 1 et des gens qui jouent au foot en division d'honneur, elle est assez ancienne déjà, et nous avons un économiste qui s'appelle Maurice Allais, qui n'est pas d'extrême droite, bien qu'il fût de droite, et qui l'avance depuis facilement 10 ans, il a d'ailleurs eu un prix Nobel. Et là où il a tout à fait raison, là aussi, qui pourrait aller contre, c'est de dire qu'effectivement, face à des pays qui ne pratiquent pas les mêmes normes sociales que la France ou l'Italie ou l'Allemagne ou l'Espagne, il faut absolument mettre en place des barrières douanières. Sauf que, vu la structure actuelle du commerce mondial et de l'économie mondiale, primo, aucun pays ne peut vivre totalement en autarcie. Secondo, l'idée d'un, disons, protectionnisme régional mis en place par exemple au niveau de l'Europe, comme ce que font d'ailleurs les Américains au niveau du continent nord-américain, serait parfaitement pertinente. Prétendre l'instaurer au niveau purement national est primo une parfaite hypocrisie. Parce que on peut toujours imaginer que la France dise « la France va fermer ses frontières ». Combien de temps allons-nous tenir ? Certainement pas longtemps. Ou alors, il faut carrément reconnaître qu'on sort de l'Europe. Mais d'un autre côté, soyons clairs, c'est l'Europe, sur son fonctionnement actuel, qui permet par exemple l'existence d'un pays comme l'Irlande. Quel beau pays l'Irlande ! L'Irlande qu'on nous a vendue comme modèle pendant plus de 10 ans, nous disant que les Irlandais avaient tout compris, qu'il fallait effectivement baisser les impôts sur les sociétés, diminuer les charges sociales pour le financement de la protection sociale, que l'économie ne s'en porterait que mieux, et qu'ainsi la prospérité allait inévitablement tomber de façon bénite sur la tête de ces braves Irlandais qui en plus sont catholiques. Aujourd'hui, l'Irlande est à genoux. C'est grâce aux banques allemandes qui détiennent 85% de la dette irlandaise et qui ont décidé qu'ils allaient mettre l'Irlande à genoux parce qu'ils y avaient intérêt. Que fait Madame Merkel ? Elle laisse faire. Soyons clairs, tant que l'Allemagne continuera à fonctionner au contre-courant des autres pays européens au sein de l'Europe, il n'y a aucune chance que l'Europe adopte un protectionnisme régionalisé. Et j'ajouterais qu'un protectionnisme uniquement centré au niveau de la France est une absurdité totale. Voilà pour un point qui est un fer de lance du programme du Front National. Donc c'est irréalisable, mais comme cela plaît à l'oreille du peuple, on le dit. Et comme on n'a en face aucun journaliste qui dit « arrêtez de dire des stupidités, c'est impossible », la chose passe, on l'écoute et elle rentre dans l'oreille des gens. C'est en ce sens très clairement que le discours mérite d'être qualifié de « populiste ». On dit au peuple ce qu'il a envie d'entendre et non pas ce qui est la réalité.
Bonsoir Monsieur Le Pen.
Bonsoir.
Président du Front National.
Mais oui.
Vous êtes coquet ou pas ?
Oh oui, tout à fait. Moi je suis un le plus beau possible, si j'ose dire. Mais je ne suis pas du tout complexé, mais j'ai de l'acné juvénile depuis 20 ans. Ça me rajeunit.
Alors, les dossiers compliqués.
Comment ?
Pas simple.
Comment ?
Compliqués.
Bon.
Est-ce que vous feriez très différemment si vous étiez sans papier ?
Ce sera le thème central.
Écoutez, je considère que l'immigration est formidable parce que moi, je suis un clandestin.
Vous considérez que Nicolas Sarkozy empiète sur un j'allais dire presque un...
Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette.
C'est aujourd'hui, pardon.
Comment ? Oui.
Où en êtes-vous ? Que faites-vous ?
Moi, j'ai tué 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ben, tant mieux. J'ai tué des enfants après les avoir violés. Ben, mais je crains. Et alors, c'est scandaleux. Moi, j'ai proposé de massacrer les vieilles dames dans des hôtels et de terroriser certains quartiers avec Jacques Chirac. Il faut téléphoner des menaces à Ségolène Royal. Voilà. Bon. Et il faut taguer les murs du squat.
Bon, alors une autre idée qui me semblait drôlement intéressante dans ce que peuvent dire les gens du Front National, c'est qu'on s'est bien fait enfler quand même avec l'euro. Hein, on a perdu, disons, entre un tiers et un quart de notre pouvoir d'achat. Et si on revenait au franc, Michel ?
Revenir au franc ou rester à l'euro, c'est un faux problème. Le gros intérêt de l'euro, et la raison pour laquelle on l'utilise comme bouc émissaire en ce moment, c'est que c'est la seule chose européenne que les Français ont dans leur poche. L'euro a quand même eu une certaine utilité, puisqu'elle a évité un certain nombre de crises de dévaluation, de crises financières et de crises de crédit dans un premier temps. Le seul problème, et la chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une monnaie n'est qu'un instrument. Ce n'est pas, ce n'est jamais une fin en soi. Or, on a mis en place la monnaie unique européenne, mais on l'a mise en place avec des critères extrêmement contraignants pour plaire à l'Allemagne et qui, sur le plan économique, sont une absurdité totale. On a créé, pour gérer cette monnaie, une banque centrale européenne qui a un statut d'indépendance que même le fonds fédéral américain n'a pas et qui est d'une indépendance exorbitante. Et enfin, cette banque centrale européenne n'a qu'un objectif de protection de la valeur de la monnaie. C'est normal, l'Europe a été construite au profit des rentiers et le rentier qui accumule du capital ne veut pas que l'inflation fasse perdre de la valeur à son capital. Mais ce qui est encore plus grave, et on en revient au protectionnisme, c'est que la Banque Centrale Européenne n'a aucune politique de change. Or, nous sommes confrontés à deux autres géants internationaux. La Chine, qui elle a un objectif de change très clairement affiché, je m'accroche au dollar, je me mets systématiquement 40% en dessous, et grâce à ça, je vends mes produits aux Américains et j'inonde le marché de produits dont les prix sont sous-évalués parce que ma monnaie est sous-évaluée. Et nous avons en face, et on l'a vu très clairement à propos de la crise, des gens comme les Américains qui ont toujours dit le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème, et qui l'ont très clairement démontré. Que font les Américains face à la menace chinoise ? Ils laissent filer le dollar sans complexe, en se disant, avec un dollar qui certes a une valeur moindre par rapport à l'euro par exemple, grâce à ça les produits américains sont moins chers, ils concurrencent les produits chinois et ils enterrent littéralement un certain nombre de produits européens sur les marchés extérieurs, et donc nous augmentons notre compétitivité. Tenir un discours sur l'euro fort aujourd'hui est une absurdité et un suicide économique compte tenu de l'attitude des deux autres géants. Mais l'Europe, parce que l'Allemagne, et seulement l'Allemagne, a intérêt à ce que l'euro reste fort, continue sa politique d'euro fort. Et je pense que nous mourrons guéris.
Bonjour Sylvestre.
Bonjour.
Président Cosy a demandé hier aux Allemands de clarifier leur potion sur le nuque, Jean-Marc.
Oui, alors le dos est sans doute plus compagne. La France est sans doute aujourd'hui le pays au monde le plus pétant pour les cons. L'Allemagne, elle, pour des raisons hystériques, elle a choisi le troll à peu près propre, capable de faire la totalité avec les Allemands, parce que il y a très vite.
Mesdames et messieurs, en ces circonstances exceptionnelles, je veux le dire aux Français, Angela Merkel a démoralisé les classes moyennes, Angela Merkel a trahi les consommateurs. Je redis donc, Angela Merkel branle les millions de petits épargnants dans le monde, avec quelle force ? Sans que personne ne s'en aperçoive. Je veux le dire aux Français, dont la vie n'est déjà pas facile quand il n'y a pas la crise, mais dont la vie devient insupportable quand Angela Merkel peut partir avec un parachute doré. Est-il besoin d'ajouter que dans la situation actuelle, Angela Merkel, qui aurait la rigidité d'une religion, est la principale menace de tous les Français.
La prison avec sursis pour Jean-Marie Le Pen. 5 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende. Le président du Front National est condamné pour...
Si par hypothèse, Monsieur Le Pen, votre boule est un peu opaque,
oui.
Elle est rouge ici.
Mais oui, moi je suis tout petit, mais pchit si vous voulez. Sans que ça n'ait fait dresser la n'est-ce pas ? Bon.
Personne
l'homme n'a rien à craindre de moi. Je suis cool. Très cool. Chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un véritable appel au secours que je vous lance. Là, c'est la catastrophe. Pour nous, c'est un véritable désastre. Politique et financier. Nos candidats n'ont obtenu que 4 voix. C'est décevant. C'est pourquoi je vous lance cet appel au secours. Donnez. Donnez. Donnez 25 000 euros. Donnez, je vous en conjure, pendant qu'il est encore temps. Merci d'avance. Donnez. Je suis brisé et ruiné. Donnez. Je m'en souviendrai. Donnez, je vous en conjure, pendant qu'il est encore temps. Merci d'avance. T'as pas 100 balles?
Comment?
T'as pas 100 balles?
Pourquoi? Parce que les caisses sont vides?
Oui, t'as pas 100 balles? Nous proposons, nous, d'abord la peine de mort pour le Front National. T'as pas 100 balles?
Non, 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 non.
Putain, dégoûté. Là, c'est la catastrophe. Le Front National va disparaître. Je suis un sous-chien, comme on dit aujourd'hui.
On enterre Jean-Marie Le Pen.
Oui, nous allons enterrer le Front National demain matin.
C'est très bien.
C'est comme cela. J'ai un site qui est www.lepenmoratoire.fr.
Toujours avec Michel et André, on parle d'extrême droite, de Front National et d'économie. Est-ce que tout cela est bien compatible ? La suite avec toi, André.
Moi, je veux revenir sur l'Europe, parce qu'en gros, le constat est le suivant. Nous sommes dans un système impossible, absurde et très dommageable à l'économie, à la société, à la politique en France, mais nous n'y pouvons rien. Le Front National se distingue des autres partis, en gros, sauf peut-être du discours de Mélenchon, qui lui aussi a la prétention de pouvoir changer quand même les choses, de pouvoir avoir une action sur les choses, qui est le propre de la politique. Les seuls partis qui vaillent, c'est les partis qui disent « je vous propose quelque chose de façon à pouvoir contrôler notre destin ». Mélenchon, comme le Front National, dit « voilà, nous faisons de la politique pour changer les choses, si c'est pour laisser les choses en l'état et pratiquer, comme tu disais, la courageuse politique du chien crevé au fil de l'eau, c'est pas la peine, faut rester à la maison ».
Et vendre des enclumes à la sortie du métro dans un parapluie.
Voilà, à la sauvette. Hein. Et refermer le parapluie et se sauver quand la police arrive. Bon, soyons sérieux. Effectivement, la politique, c'est essayer d'avoir un moyen. Là, la réflexion politique devrait être comment modifier, comment changer les donnes, la donne, changer les choses. Alors évidemment, les forces qui sont en présence sont considérables, bien sûr. Il est complètement illusoire de dire « bon, c'est simple, il suffit d'eux, il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à ». Non, c'est pas si simple que ça, évidemment. Nous sommes enfermés dans un contexte économique, financier, qui est extrêmement puissant. Ces gens-là verrouillent tout de façon à contrôler les choses. Et pour l'instant, nous avons une archi-domination du grand capital financier, bancaire, sur le destin des gens. Et c'est un système totalitaire. Les gens avaient peur du totalitarisme soviétique. Laissez-moi rire. En fin de compte, un train peut en cacher un autre. On a échappé au totalitarisme soviétique pour tomber dans un totalitarisme non moins abject, non moins terrible. C'était le totalitarisme de la banque, de la finance, qui écrase les gens de façon et qui, en fait, leur interdit tout espoir, toute perspective. Donc, il faut sortir de là. Donc, les seuls projets politiques qui vaillent sont les projets politiques qui prétendent essayer de sortir de ces situations-là. Sinon, c'est pas la peine, effectivement, faut faire autre chose. Bon, or, il est possible peut-être d'imaginer autre chose. Et évidemment, bon, nous, depuis, allez, de 30 ans, quoi, on s'est enfermé dans un système comme ça, et tout ce qui s'est construit en Europe, en particulier, a été pour accompagner, favoriser la réaction ultralibérale dans le monde entier. Bon, ça a commencé en Angleterre, ça s'est avec Thatcher, ça s'est poursuivi aux États-Unis avec Reagan, Bush, etc.
C'est les années 80.
Ben oui, bien sûr, c'est les années 80. Et chose curieuse d'ailleurs, en France, la gauche arrive au pouvoir au moment où triomphe cette idéologie ultralibérale, anti-État, anti-impôt, anti-tout, etc. Et malheureusement, la gauche cède. Enfin, les socialistes cèdent totalement à cette mode et à ce discours, à cette analyse, et lâchent toutes les digues. Et maintenant, ils disent qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors bon, c'est une politique de gribouille, ça.
À l'époque, ils ont dit qu'ils l'ont fait par réalisme, parce que sinon on allait dans le mur, parce que Mitterrand, c'était rigolo 5 minutes, mais enfin...
Nous avons mis une croix sur la politique de rupture. Voilà comment ils traduisaient à l'époque leur reniement sur le plan idéologique et politique. Oh, nous n'allons plus rompre avec... Bon.
La politique engagée depuis le mois de mai 1981 est-elle bonne ? Pour la France.
Le tournant économique du septennat de François Mitterrand a déjà eu lieu avec la mise en œuvre de la politique de rigueur depuis juin 82.
Bonsoir à tous. Sont réunis ce soir sur le plateau d'Apostrophe en direct trois intellectuels et un chef d'entreprise. En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires ou en passe de l'être. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Cette publicité dit ceci. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Faut cesser avec tes enfantillages, André. Ces gens-là ont agi comme des adultes.
Non, attends, je pense qu'il faut pas les innocenter comme ça si facilement que ça. Enfin, ils ont une histoire, ils sont socialistes. Bon, certains mauvais esprits diront qu'ils ont déjà trahi plusieurs fois dans l'histoire, etc. Mais admettons même qu'on efface l'éponge et qu'on les prenne en 81, ils sont socialistes. Lorsqu'ils font leur congrès à Épinay en 73, 72, je crois plutôt, et ils prétendent avoir rompu avec les affreuses pratiques de la SFIO, pratiques opportunistes, pratiques sans principe, etc. Et en fin de compte, que font-ils 10 ans après? Ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'assoient sur l'espoir sur lequel ils ont été élus. Parce qu'il y a des gens qui les ont élus comme des socialistes, comme des gens de gauche. Et ils s'assoient dessus complètement. Ils nous plongent, littéralement, au nom de l'Europe, des grands sentiments, de l'Europe des nations, etc. Ils nous plongent dans un système où on a les pieds et mains liés, on ne peut plus changer notre fiscalité, on ne peut plus changer, on est obligé de s'aligner sur le Bangladesh, etc. Mais ils ont des comptes à rendre quand même, bon. Et effectivement, ils les rendent. Et le Front National leur met le nez dans le caca. Il est facile de dire « Ah, oh, salauds de pauvres, connards de pauvres, qui vont voter Front National après avoir voté communiste ou socialiste. » Mais enfin, qui souffre? Qui est dans la merde actuellement? Pas les bobos qui sont passés à l'ENA ou à Sciences Po, etc. Et qui usent leur fond de culotte dans les ministères. C'est pas ces gens-là. Les gens qui souffrent, c'est la classe ouvrière, ce sont les travailleurs, les employés. Ces gens-là souffrent atrocement. Et on leur dit « Bah oui, peut-être dans quelques années, la Bulgarie sera à notre niveau. » Si tout se passe bien, si l'Europe continue dans sa voie harmonieuse, on va aligner les pays les plus pauvres d'Europe sur le niveau européen. Pendant ce temps-là, mais qui souffre? Et ces gens qui souffrent, ben, ils expriment leur colère. Certes, c'est une façon bête, stupide de manifester sa colère que de voter pour la droite, pour échapper à la droite. Bon, ça fait idiot. Mais moi, je ne mettrai pas au même titre les gens qui les trompent. Et ces gens qui sont trompés, je ne les mettrai pas au même niveau, je ne les mettrai pas dans le même sac. Il est facile hein, d'être intelligent, de voir le danger de l'extrême droite, anti-humaniste, etc. Mais l'humanisme, pour des gens qui sont pauvres, ça n'a pas de sens. L'humanisme, les grandes idées, les lumières, le 18e siècle, la raison, le rationalisme, c'est très bien, j'adhère à ces idées. Hein. Mais je dis que vouloir que ces idées empêchent le pauvre de voter pour la révolte, parce qu'ils pensent peuvent voter pour la révolte, bien sûr que c'est une politique de gribouille. On sait bien qu'ils se flanquent à l'eau pour ne pas être mouillés par la pluie, comme Gribouille de la comtesse de Ségur, mais enfin, peut-on les mettre en cause? Non. Alors bien sûr, il n'y a pas que des ouvriers qui votent et des employés qui votent Front National, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont écœurés, et comment ne pas l'être, par la politique d'une certaine gauche, hein, depuis 81, on ne les fera plus voter à gauche. Hein. En tout cas pas pour cette gauche-là. Qui a, en fin de compte, effacé les frontières entre la gauche et la droite? Qui a provoqué la confusion politique dans laquelle se trouve actuellement l'électorat français?
Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite.
Mais qui? Ben les gens qui ont fait des politiques de droite avec l'étiquette de gauche. Ce sont ceux-là les responsables. Lorsque ce pauvre Jospin a été boulé aux élections, j'entendais des électeurs socialistes, des militants socialistes dire « Oh, les comptes travailleurs, les comptes pauvres ont été votés, etc. » Mais enfin, qui était responsable de ce vote aberrant, absurde, etc. si ce n'est la social-démocratie elle-même?
Il est bien dispersé le peuple de gauche. Hein,
moi, vous savez, j'ai une pensée simple. Que moi, j'ai toujours considéré que, comme je le dis, c'est un fait.
D'abord, je crois qu'effectivement, il faudrait retrouver une identité de gauche qui a été un petit peu quand même délayée et dévoyée par le Parti Socialiste, il faut bien le dire.
La Marine Le Pen, il faut supprimer le Front National.
Ah non, c'est pas ça. Il faut surtout valoriser la haine. Je suis d'une brutalité que je crois pas un Français n'imagine même. J'ai jeté des pierres sur une de vos consoeurs qui a eu le crâne ouvert.
Est-ce que les profs sont au niveau de l'école ou pas?
Moi, je crois que les profs sont mauvais. Il faut juste les abandonner. La preuve, d'ailleurs, c'est que les enfants qui sortent de CM2 sont communistes. Rien de très extraordinaire.
Quelques auditeurs vous attendent, là, Marine Le Pen.
Alors, allez-y. Fabrice...
Moi, je vous trouve honnête, intègre et courageuse.
Non, mais n'importe quoi. Non, c'est faux.
C'est faux. Ah bon, c'est faux.
Non, c'est faux. J'appelle tous nos auditeurs à aller sur mon site de campagne, Marine Le Pen 2012. Vous cliquez sur Pipo Gogo et vous allez voir que moi, je suis pour le démantèlement de tous les immigrés. C'est des paresseux.
Mais non.
Mais si, systématiquement, et c'est un véritable scandale. Tous les bagayokos, ils veulent pas travailler, ils sont désassistés. Stop.
Bon.
Mais pour ça, il va falloir aussi, qu'est-ce que vous voulez, arrêter les Français. Tous les Français, quels qu'ils soient, méchamment...
T'es une catastrophe.
Oui.
Cette femme est bien plus dangereuse que son père.
Bien sûr que oui. Moi, je suis en réalité insupportable. Je suis une poule grasse, voilà. C'est la grande différence qu'il y a entre le Front National et les autres partis politiques.
Marine Le Pen, merci.
Pipo, gogo.
Ce qu'il y a de bien avec les idées du Front National, des fois, Michel, c'est que c'est facile à comprendre. Autant de millions d'étrangers... Autant de chômeurs, virons les étrangers, ça fera du boulot pour les pas étrangers de souche.
C'est du calcul simple, simplissime, mais très efficace. C'est l'habile façon de glisser de l'économique au social et de prétendre apporter à un problème effroyablement complexe des réponses incroyablement simple, facile à comprendre et totalement absurde dans la réalité. Il faudrait quand même rappeler que, tout d'abord, des étrangers qui travaillent en France, quand ils ont un permis de travail et qu'ils ont un contrat de travail, ils ne peuvent être recrutés par un patron que si le patron a déjà mené en France, et qu'il le prouve, une démarche de recherche d'emploi et qu'il a démontré que cet emploi n'avait pas pu être pourvu par un Français. Première chose. Secondo, du travail clandestin. Bien sûr, il est vrai que malheureusement, un certain nombre d'étrangers habitant en France pratiquent le travail clandestin. Faudrait quand même rappeler que le travail clandestin est fourni à 80% par de bons Français, à commencer par des salariés d'artisans qui, le week-end, avec le matériel prêté par l'entrepreneur, font des chantiers à droite et à gauche, donnent des coups de main et se font payer en liquide pour ça. Donc, on a une vision simpliste, mais surtout l'énorme avantage, c'est qu'on trouve un exutoire et un bouc émissaire, on trouve une réponse très, très simple. De même que le pétainisme avait trouvé une explication très simple à la défaite française, la politique des socialistes et les francs-maçons. Ah, évidemment, ça, c'était une politique très simple. On rajoutait, excusez l'expression, je ne fais que la citer, la juiverie internationale, et on avait le tableau total. Aujourd'hui, on va remplacer les juifs par les musulmans. Et surtout, on veut
faire croire que la partie minoritaire, visible, extrémiste des personnes qui sont de culture musulmane représente un ensemble incroyablement complexe dans lequel se trouve un grand nombre de musulmans laïcs qui se considèrent comme non représentés car ils n'ont jamais la parole. Mais vous observerez que le premier à avoir facilité les choses sur ce plan est un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy quand il a décidé de créer un conseil français du culte musulman. Les gens de culture musulmane, mais totalement laïque, sont montés au créneau pour dire « Et nous, nous avons peut-être des choses à dire, mais personne ne veut nous écouter. » On a voulu se concentrer sur un problème cultuel, on a fait exprès de le concentrer sur un problème cultuel, tout simplement parce que l'idée est bien, elle a été affirmée par le Front National, que il y a des cultures qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, pratiquons le communautarisme.